Et David a écrit ce psaume probablement lors d'une de ces multiples opportunités où Saül voulait le tuer. C'est ça la force des psaumes, c'est que on a un homme qui est confronté à la mort souvent, plusieurs fois. Donc la persécution, il sait. Et en six versets, vous allez voir, six versets seulement, David nous donne les clés nécessaires pour répondre à la souffrance. Ne pas laisser l'amertume s'installer. Tu peux démarrer le diaporama, mettre la première diaporama. Il y a un diaporama qui suit, oui? Oui, si, si. Ici, voilà. En dessous, oui. Ouais, donc il y a un diaporama qui va suivre. Ouais, donc tu peux quitter la vidéo. Tu reviens sur le bureau. Ah ouais, tu reviens sur le bureau. Ouais, tu reviens sur le bureau. Je m'accompagne toujours d'un petit diaporama. Donc vous allez voir, ce psaume 13 nous donne les clés, hein, vraiment les clés pour passer de l'amertume à la souffrance. Et je vois trois objectifs dans cette prédication. Ouais, voilà, c'est bon. De l'amertume à la joie. C'est la vieillesse. J'ai eu 70 ans quand même cette année. Voilà, de l'amertume à la joie. Je vois trois objectifs. Un, que notre cœur pour l'Église persécutée grossisse, augmente, s'élargisse. Pour qu'en fait, on ne pense pas à l'Église persécutée seulement une fois par an. Mais que ça soit quelque chose qui est là en nous toute l'année. D'ailleurs, à la fin, je vais proposer de la prière à faire tout au long de l'année. Hein. Ça, c'est un premier objectif. Que cet amour de l'Église persécutée soit gravé dans nos cœurs. 360 millions de chrétiens souffrent de la persécution forte. D'accord? Deuxième objectif, le témoignage de l'Église persécutée nous parle. Et nous redresse, nous adresse un message. Et donc, si on est dans le combat quelquefois avec la rancœur, l'amertume, ce message est pour vous. S'il y a de la rancœur ou de l'amertume qui nous habite de temps à autre, ce message est pour nous. Et troisièmement, l'Église persécutée actuellement nous prépare pour peut-être, nous sommes peut-être à l'aube d'une persécution qui va nous atteindre aussi. Il ne faut pas qu'on soit balayé. Et là, voilà, ce message est pour nous, parce qu'il nous prépare pour ces temps futurs. Et si des chrétiens qui ont tout perdu arrivent à trouver la joie en Christ, alors nous pourrons nous aussi trouver cette joie dans le Christ. Oui, la suivante, Samuel, oui, je te ferai un petit signe comme ça, voilà, la suivante, c'est bon, l'introduction, voilà. Donc la Bible ne manque pas d'exemples de personnes qui ont souffert pour le nom de Dieu. Hein. On pense bien sûr à Job qui a tout perdu, toute sa famille, tous ses biens. Hein, c'est le premier exemple qui nous vient à l'esprit, Job. On pense à la mort atroce d'Étienne, lapidé. On pense aussi à Paul qui a été battu, lapidé, emprisonné. Hein. Donc à différents degrés, pour différentes raisons, on est tous concernés par la souffrance. La perte d'un proche, la maladie, un divorce douloureux, des enfants qui s'éloignent de la foi, le rejet, les conflits, voilà. Impossible de l'éviter. La souffrance fait partie de notre quotidien. Et la Bible n'a jamais dit qu'on allait être épargné par la souffrance. Jamais. Hein? D'accord. Alors la raison de la souffrance, c'est une grande question de la vie humaine, elle l'a toujours été, elle l'est toujours encore aujourd'hui. Et dans le cas des chrétiens persécutés, la souffrance fait partie du prix à payer pour suivre Jésus dans un monde qui le rejette. Comment réagir face à cette souffrance? Quelle attitude adopter lorsqu'elle se manifeste? Comment ne pas sombrer dans l'amertume, la déception ou le désespoir? Et la Bible nous apporte des réponses. Alors on va lire ensemble le psaume 13. Tu peux y aller? Voilà. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu », mes adversaires se réjouirent en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Premier point, quatre fois, il dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Exprimer ma plainte. Voilà, une première clé. Être capable d'exprimer sa plainte. David épanche son cœur devant Dieu. Quatre plaintes assez directes, qui peuvent sembler accusatrices, mais qui ressemblent d'assez près à ce que nous pouvons ressentir, nous, hein, face à la souffrance, si on est honnête. Et c'est là la force du livre des psaumes. C'est là la force du livre des psaumes, comme l'a écrit un chrétien persécuté. Le livre des psaumes est l'un des livres les plus lus, les plus appréciés de la Bible. Alors que la plupart des textes bibliques nous parlent, les psaumes parlent pour nous. Ils expriment nos sentiments les plus profonds. Exprimer notre plainte. Ouais. Ne pas craindre de se plaindre honnêtement devant Dieu. Et il y a une constante dans les réactions vraiment de David, de Job, d'autres hommes de Dieu. Tous se montrent parfaitement honnêtes. Il n'y a pas de faux semblants. Ils expriment leurs tourments et leurs questions. Ils ne cherchent pas à les minimiser ou à garder pour eux leurs émotions. Au contraire, ils ouvrent leur cœur avec vérité devant le Seigneur. Voilà, première clé. Première clé. Hein. Job disait, c'est pourquoi je ne me retiendrai pas, je parlerai dans la détresse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. C'est l'amitié qui les lie à Dieu qui leur donne cette audace. Ils sont tellement proches de Dieu qu'ils se sentent libres de s'exprimer ouvertement. Identifier et reconnaître nos sentiments. David a identifié avec ses quatre jusqu'à quand les différents sentiments qu'il éprouve et qui sont douloureux pour lui. Alors il a exprimé à la fois un sentiment d'être abandonné, oublié, un sentiment d'être rejeté, privé de la faveur de Dieu. Il a exprimé le poids de ses soucis et des chagrins qui remplissent son âme. Et il a exprimé aussi sa crainte d'être maltraité et humilié par les autres. Il est facile dans la souffrance de se laisser gagner par le mensonge. Ah, Dieu m'oublie. Dieu m'a oublié. Dieu m'a rejeté. Les chrétiens persécutés expriment avec honnêteté ce sentiment comme le jeune Traoré. On voit juste une partie de son visage là, voilà. Traoré vient du Burkina Faso, qui qui était avec son père lorsque celui-ci a été assassiné par les Peuls. Et il a dit, j'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné, mais quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il est avec moi depuis le début. Je pensais que Dieu ne se souciait plus de moi, mais il m'a soutenu durant ma souffrance. Voilà, comme David, comme Traoré, n'ayons pas peur de reconnaître nos sentiments qui peuvent nous traverser, la solitude, l'abandon, le rejet, la crainte. Exprimons-le sans culpabilité. 3. Évitez le cercle vicieux de la souffrance et de l'amertume. Si on garde ces sentiments enfouis en nous, si on préfère les ignorer ou les cacher plutôt que de les assumer, alors là, ils peuvent facilement enraciner l'amertume dans nos cœurs. Et ces racines d'amertume, eh ben, qu'est-ce que ça produit ? Du fruit de la colère, de l'insatisfaction, des conflits avec les autres qui conduisent à davantage de souffrance dans nos vies et même dans la vie de ceux qui nous entourent. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous prévient. Il nous dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble, que beaucoup n'en soient affectés. Job lui-même a dit, c'est pourquoi je ne me retiendrai pas, je parlerai dans la détresse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Voilà, comme David, comme Job, n'oublions pas qu'on a un Dieu d'amour infini, toujours prêt à nous écouter. Soyons transparents devant lui et disons-lui tout ce qu'on a sur le cœur. Disons-lui tout ce qu'on a sur le cœur. Lorsqu'on exprime notre souffrance dans la prière, on peut rencontrer un Dieu vivant, présent, actif dans nos vies. Oui. Ah. Après, jusqu'à quand ? 4 fois, regarde-moi, réponds-moi. Nous attendre au secours de Dieu, oui. Stop, on revient un peu en arrière peut-être, oui, c'est pas grave, oui. Voilà, ouais. Très bien. Alors dans ce deuxième partie, David quitte le registre de la plainte pour entrer dans une phase plus active. Ah. La demande, l'expression de ses besoins. Et ce qu'il cherche avant tout, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est ce qu'il exprime quand il demande à Dieu de le regarder. Et de répondre. On peut presque l'entendre adresser son cri, hein, pour attirer son regard. C'est l'image d'un enfant qui désire plus que tout l'attention inébranlable de son père. Donc, ne pas chercher à résoudre nos difficultés tout seul. Alors, vous avez vu le témoignage de Ayouba. On va voir une partie de son visage. Voilà. Ne pas chercher à résoudre nos difficultés. Lorsqu'on se trouve confronté aux difficultés, le danger, c'est de croire qu'on peut et qu'on doit s'en sortir tout seul. Aujourd'hui, on a à disposition des outils, des conseils. On a des frères, on a des sœurs. Ouais. Et on peut aussi choisir d'ignorer cela. Le mettre sous le tapis. Et nous plonger dans le travail, la réussite personnelle, les distractions en tout genre. Pour Ayouba, la solution était simple. Pour aller mieux, il lui fallait se venger et tuer les personnes responsables de la mort de son père. Mais il a expérimenté que recevoir de l'aide était bien plus efficace pour guérir et trouver réellement la paix. Il a pris la bonne décision. En se rendant dans un centre tenu par des partenaires portes ouvertes où on soigne les traumatismes. Il a reçu des soins post-traumatiques, il a pu guérir jusqu'à être capable de pardonner. Waouh, magnifique témoignage à Ayouba. Deuxième point, dans ce point, réponds-moi, demandez l'éclairage de la vérité. Par ta lumière, Seigneur, nous voyons la lumière. David demande à Dieu de lui donner de la lumière. Ah, ça c'est important, ça c'est une autre clé. Ça c'est une autre clé. Grâce à la lumière de Dieu, David souhaite voir la situation comme Dieu la voit. Il reconnaît que la perspective humaine est limitée, tandis que la vision de Dieu est toujours pleine, parfaite. La lumière, demander la lumière, c'est demander à Dieu, un moyen de discerner la main de Dieu à l'œuvre dans l'obscurité des épreuves qu'on traverse. Les yeux sont considérés comme le reflet de l'âme. Alors recevoir la lumière de Dieu projette l'image d'une âme lumineuse, riche et joyeuse jusque dans notre regard. Et Paul, il en parle de ça dans sa lettre aux Éphésiens. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse, de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage, etc. Donc on est encouragé là, demander la lumière de Dieu pour avoir sa perspective sur notre situation et ne pas perdre de vue sa souveraineté, même quand on avance au milieu des ténèbres. Et pour qu'on garde l'espérance. Bravo, heureusement que tu es là, Samuel. Ah, merci. Ne pas sombrer dans le sommeil de la mort. Ben oui. Eh oui. David a été souvent à la frontière de la dépression totale et du désespoir. C'est très parlant, hein, cette parole. On ressent l'inquiétude de David de glisser dans le vide du désespoir, de la dépression. Et cette crainte est légitime. Sans la lumière du Dieu de vérité pour nous éclairer, tel un phare qui perce la brume, hein, du désespoir, la navigation dans les eaux troubles de la souffrance et de l'amertume est très dangereuse. Sans la lumière qui donne vie, nos âmes peuvent se noyer dans les profondeurs de la désolation. Alors, troisième point. Ah, après, réponds-moi. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Ouah. On pourrait penser qu'il s'est passé des années entre le début du psaume et la fin, mais non, il ne s'est pas passé des années. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous répandez votre plainte? Vous comptez, vous déclarez votre secours en Dieu. Ça m'est arrivé cette semaine où j'ai dû un moment lutter contre une fatigue spirituelle et qui faisait perdre ma joie. Ah, j'ai déclaré, j'ai proclamé, Seigneur, je me confie en toi. Et j'ai retrouvé la joie. Donc dans l'instant, dans les instants qui suivent, nos plaintes qu'on répand devant Dieu, notre attente de son action, nous pouvons expérimenter déjà son secours. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Quel contraste entre ce dernier verset et les premières lignes du psaume. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Alors on aspire tous, bien sûr, à une vie où les problèmes se règlent, vous êtes d'accord, hein? On aspire tout à ça, on a des problèmes, on a envie qu'ils se règlent. Hein? Où la souffrance est limitée, où les circonstances nous sont favorables. Il est légitime d'attendre cela, hein? Comme des enfants qui espèrent des bonnes choses de leurs parents. C'est aussi ce qu'attendait David. Mais cela ne peut pas être le fondement de notre foi. La seule réponse de Dieu aux prières n'est pas le fondement de notre foi. Le fondement de notre foi, c'est qui est Dieu? Dieu est amour. Et je l'aime, j'apprends à l'aimer en toutes circonstances. comme David l'exprime, notre joie et notre reconnaissance sont la réponse à qui est Dieu, au salut qu'il nous donne. C'est lui notre bonne nouvelle. Chanter en toute situation, l'exemple d'Awel. Alors je vais rapidement, parce que je vois qu'il est quand même déjà midi, donc on va avoir un léger retard. Bon. Awel, c'est incroyable, Awel. Awel, c'est incroyable. Il était en prison pour sa foi 15 ans. 15 ans, vous imaginez ? 15 ans. Et en prison, il apprend à louer Dieu. Il a la victoire. Il apprend à louer Dieu. Il apprend, d'ailleurs, ça a complètement étonné les partenaires de Saint Jean. Mais il sort de prison après 15 ans. Il est marié, il a des enfants. Il sort de prison. Il s'aperçoit que sa femme et ses enfants l'ont oublié. Ils ne veulent plus de lui. Vous connaissez une pire situation que celle-là ? Vous en connaissez une pire ? Oublié par sa femme et ses enfants en sortant après 15 ans de prison. Et donc, il était au bord de la dépression. Il a été au bord de la dépression, ça c'est clair, hein ? Et il s'est dit, qu'ai-je fait pendant ces 15 ans en prison ? J'ai loué à rien. Ça ne servait à rien. Il était déçu, il doutait de ses capacités. Il s'est mis à douter de la bonté de Dieu. Il se disait, ma vie est pleine de désespoir. A-t-elle encore un sens ? Il est rentré dans la plaine de l'amertume, au bord de l'étang de la dépression. Mais Awel, il a fallu qu'il comprenne le plan de Dieu, le vrai sens de son existence. Celui que Jésus nous rappelle dans Matthieu 22, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. C'est ça le sens profond et le but de nos vies. Alors il a accepté cette traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Il a recommencé à vivre pour Dieu. Et il a même dit, j'ai appris à découvrir un chant pour chaque circonstance. Un chant pour chaque circonstance. La circonstance de la joie, d'une bonne nouvelle, et la circonstance de l'épreuve, de l'adversité. Quand je suis persécuté, je me dis que Dieu est au contrôle. Quand Dieu me délivre, je me rends compte qu'il est là, qu'il est présent, oui, et qu'il ne m'a jamais quitté. Dieu est bon en toutes choses, donc quand la persécution vient, je chante. Quand Dieu me délivre, je chante aussi. J'ai un chant pour chaque circonstance. Et quand j'ai reçu ça, j'ai pensé au psaume 46, vous savez, le deuxième verset, verset 46, verset 2, qui dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Ouais, c'est le sanctuaire de la demeure du Très-Haut. Ce sanctuaire n'est pas ébranlé. Ce sanctuaire, Dieu le secourt chaque matin. Ce sanctuaire, c'est nous. C'est chacun de nous. Nous sommes chacun le sanctuaire de Dieu. Et vous savez ce que Dieu nous dit ? Apprends, apprends, apprends à laisser couler en toi ce fleuve, ce chant de louange en toutes circonstances. Et alors, tu expérimenteras que tu ne seras pas ébranlé. Tu seras secouru chaque matin. Amen. Est-ce qu'on veut cela ? Est-ce qu'on veut cela ? J'arrive pratiquement à la conclusion. Hein. Oui. Voilà Awel. Voilà cet Awel hein, qui était 15 ans en prison. Voilà, et nous pouvons ainsi passer de l'amertume à la joie. C'était l'expérience d'Awel. Ça doit être notre expérience. Voilà, je conclue le dernier verset. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Waouh. Et voilà, là c'est une prière d'un chrétien iranien emprisonné, torturé et condamné. Ce que je vous propose, je vais la lire, mais la dernière phrase, on va tous la déclarer. Dernière phrase, on va tous la déclarer. Je lis, C'est aux humbles que Dieu accorde sa grâce. C'est dans le feu que l'or est purifié. C'est le polissage et la taille qui rendent le diamant brûlant. C'est à haute température que la rouille du pot est brûlée. C'est par la porte étroite que nous entrons dans le royaume des cieux. C'est dans de très grandes épreuves que naissent les hommes et les femmes de Dieu. Seigneur, fais de moi un tel homme ou telle femme. On le dirait encore, Seigneur, fais de moi un tel homme, telle femme. Amen. Wow. Voilà. J'ai quelques dias, simplement, ce sont des dias d'information, surtout, et ça prend 3 minutes. Les enfants vont venir aussi et ils vont partager très rapidement ce qu'ils ont fait aussi. Alors, oui, si tu peux passer, voilà, très bien. Donc, on peut s'inscrire hein, sur le site Portes Ouvertes. On peut s'abonner au journal. Bon, c'est 11 euros par an. Dans ce journal, il y a un index de prière, un calendrier de prière avec Annette. Tous les matins au petit déjeuner, eh bien, on prend la prière du jour. Comme ça, l'Église persécutée, vous êtes avec toute l'année en suivant ce calendrier de prière. D'accord ? Mais j'ai pensé vous laisser 3 sujets. Ouais, là, tu peux. Vas-y. Bon, ça, c'est l'index de persécution que vous aurez dans le journal. Vas-y. Bon, campagne de prière, tu passes au suivant, voilà. Là, j'ai 3 papiers, un qui parle de Ayouba, qui a eu la victoire là, hein, sur l'amertume, sur la vengeance, mais il faut continuer à prier pour lui. Vous avez à cœur de prier pour Ayouba, eh bien prenez le petit papier là, je le mets sur le comptoir. Ça rappelle un peu, très rapidement, qui est Ayouba et pourquoi on peut prier pour lui. D'accord ? Par exemple, vous pouvez décider, cette semaine, tous les soirs, je vais prier pour Ayouba. Ou ce mois-ci, une fois par semaine, je vais prier pour Ayouba. Ou toute l'année, je vais prier pour lui, une fois par mois, une fois de temps en temps, une ou deux fois par mois. Vous voyez ? Alors, il y a Ayouba, mais il y a aussi Gertrude, qui était blessée par balle. Et alors qu'elle était blessée, son mari était assassiné aussi. Alors, c'est très dur pour elle. Donc, Gertrude... Donc tout ça, c'est des personnes de la République démocratique du Congo. Et une troisième personne, le pasteur Jean, qui a assisté aussi à la destruction de son église et à l'assassinat de quelques membres de son église. Vous pouvez prier pour le pasteur Jean aussi, voyez. Il y a 3 papiers concernant ces 3 personnes. D'accord ? Voilà, c'est une manière concrète d'être avec l'église persécutée tout au long de l'année. OK ? Et alors, bien sûr, comme chaque année, nous avons une collecte. Alors, ce n'est pas la boîte ici, mais c'est la boîte qui est sur le comptoir. D'accord ? Si c'est un chèque, vous pouvez le faire à l'ordre de Portes Ouvertes. Hein, donc, c'est Portes Ouvertes qui va orienter cet argent vers l'Afrique subsaharienne, ça c'est sûr. Voilà, la boîte est là. OK. Et donc, j'espère que votre cœur... est touché. Vous voyez, avec 10 euros, on offre des manuels pour responsables avec 60, mais vous pouvez donner 20, 30, ce que vous voulez, 50. Voilà, hein. Vous pouvez offrir une formation à 2 responsables d'église avec 60 et avec 100, vous accompagnez des responsables d'église dans la formation de disciples. Voilà. Merci. Et peut-être, si quelqu'un peut... aller chercher les enfants, leur dire que c'est la fin, et puis le prochain dimanche à l'église persécutée aura lieu quand même cette année, je pense, en novembre. oui je crois on va remettre ça en novembre, oui mi-novembre souvent, ouais, on va remettre ça mi-novembre, hein. Voilà, merci pour votre patience, j'ai un peu débordé, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui, hein. C'était compliqué, il y avait des annonces aussi. Voilà. Ouais, c'est bon ? Ils n'ont pas fini. Bon, ce n'est pas très grave. Sachez qu'ils font des feuilles avec des prières qui vont envoyer ces feuilles dans des cliniques post-traumatiques, là, dans ces régions d'Afrique, pour encourager des feuilles d'un arbre. Ils ont dû constituer un arbre. Il y a des feuilles et il y a des prières spéciales. Et je sais que tous les enfants ramènent un tout petit peu de leur argent de poche et participent aussi à l'offrande. Voilà.